Bonsoir Jean Lebrun, bonsoir à tous. Suite et suite, ce jeudi d'une semaine sur Voltaire dans les nouveaux chemins de la connaissance. Une semaine sur un homme siècle, dont la modernité bizarrement n'a pas encouru l'obsolescence. À quoi tient la postérité d'un homme qui était pourtant tellement de son temps? Peut-être à la grâce de ses contes. Ses contes orientaux, comme les autres, dont nos têtes blondes se délectent dès la classe de quatrième. Candide, Zadig ou encore l'ingénu, des fadaises philosophiques qui, de l'aveu même de leur auteur, ne doivent être lues que comme on se délasse d'un travail sérieux avec les bouffonneries d'Arlequin. L'histoire ne manque pas d'ironie, puisque ces fadaises sont aujourd'hui ce qui vaut à Voltaire d'être encore lu par tous. On va donc parler des contes de Voltaire aujourd'hui en votre compagnie, Raymond Trousson, qui nous accompagnait toute cette semaine, qui est le biographe de Voltaire, l'auteur d'une somme, intitulée sobrement « Voltaire » paru chez Talendier en 2008. Mais d'abord, et comme toujours, c'est avec Sacha Guitry qu'on entame cet hommage au roi Voltaire.
Voltaire fut statufié de son vivant. Une souscription nationale s'était ouverte à ce propos. Il dit alors « c'est une fort bonne idée, car c'est un encouragement à l'étude de l'anatomie » que de souscrire à la statue d'un squelette.
Souscrire à la statue d'un squelette. Voilà un homme qui ne manquait tellement pas d'ironie qu'il en usait à son propre propos, Raymond Trousson.
Oui, c'est exact, et il a fait souvent des plaisanteries, évidemment, sur son extrême maigreur dans sa vieillesse, en disant d'ailleurs que le projet de Pigalle, qui consistait, à la demande de Diderot d'ailleurs, à le représenter nu à l'antique, ne posait pas de problème de pudeur, parce que dans l'état où il était, il ne risquait pas de faire défarouger les dames. Mais il faut savoir aussi, finalement, que le corps de Voltaire que nous voyons en dessous de la tête du personnage, c'est pas le corps de Voltaire qui n'a évidemment pas posé une nature libus, c'est le corps d'un militaire des Invalides. En somme, combattant pour combattant, on avait été chercher un ancien soldat pour mettre ce corps d'un autre soldat qui est celui de la libre pensée.
Alors Raymond Trousson, on va parler des contes de Voltaire. On a parlé trop rapidement hier de Micromégas. Pourtant, c'est un conte très bref, mais il y aurait une infinité de choses à dire sur ces quelques aventures de deux géants au pays des humains. On va repartir un instant de Micromégas et de cette drôle d'histoire qui, finalement, relève de ce qu'on pourrait appeler une forme de littérature de l'étranger, une littérature également de l'étrange, une façon aussi pour le philosophe d'enseigner à regarder les choses avec un œil différent que le sien. En somme, de décentrer l'humain, on peut le dire comme ça.
Oui, c'est en tout cas, bien sûr, et avant tout, une leçon de relativisme. Cesser de se prendre pour le centre du monde lorsqu'on est, aux yeux d'un géant venant de Sirius, qu'un misérable insecte. Donc, réduire un peu cet orgueil anthropocentrique qui fait parfois sourire Voltaire, bien entendu. Il a une autre conception de l'humain qui est celle d'un être capable d'accéder à la raison et, par la raison, à un certain progrès, une certaine amélioration. Mais il se défie d'un système où, en fonction de l'orthodoxie d'ailleurs, l'homme aurait été placé au centre du monde et que le monde entier est fait pour lui.
Oui, c'est un des moments les plus drôles de Micromégas. On est à la toute fin de Micromégas et quand un des hommes, celui qui porte un bonnet carré, dit que toute chose a été créée pour l'homme, or celui qui le dit a la taille d'un atome dans les mains du géant.
Son bonnet carré, c'est évidemment une allusion à un membre de la Sorbonne, c'est-à-dire la faculté de théologie.
Mais alors, les géants rient tellement en entendant une telle ineptie qu'ils font tomber les atomes de leurs mains et qu'ils tombent dans la culotte du géant.
Oui, ce qui est évidemment une dérision assez visible, ça va sans dire.
Conversation avec les hommes, donc, on trouve ça dans Micromégas. Avant cela, il y a la conversation de l'habitant de Sirius avec celui de Saturne. Écoutez.
Voyage d'un habitant du monde de l'étoile Sirius dans la planète de Saturne.
Sans
Je ne veux point qu'on me plaise, dit le voyageur, je veux qu'on m'instruise. Commencez d'abord par me dire combien les hommes de votre globe ont de sens. Nous en avons 72, dit l'académicien, et nous nous plaignons tous les jours du peu. Notre imagination va au-delà de nos besoins. Nous trouvons qu'avec nos 72 sens, notre anneau, nos 5 lunes, nous sommes trop bornés. Et malgré toute notre curiosité et le nombre assez grand de passions qui résultent de nos 72 sens, nous avons tout le temps de nous ennuyer. Je le crois bien, dit Micromégas, car dans notre globe, nous avons près de 1000 sens, et il nous reste encore je ne sais quel désir vague, je ne sais quelle inquiétude, qui nous avertit sans cesse que nous sommes peu de choses, et qu'il y a des êtres beaucoup plus parfaits. J'ai un peu voyagé, j'ai vu des mortels fort au-dessous de nous, j'en ai vu de fort supérieurs, mais je n'en ai vu aucun qui n'ait plus de désir que de vrais besoins, et plus de besoins que de satisfaction. J'arriverai peut-être un jour au pays où il ne manque rien, mais jusqu'à présent, personne ne m'a donné de nouvelles positives de ce pays-là.
La vie méchant et trouveront que,
puisque Micromégas,
habitant du pays de Sirius, a
24 000 pas,
il faut 120 000 pieds de roi.
Et que nous autres,
citoyens... D'emblée, évidemment, dès le chapitre 2 de Micromégas, le décor est planté, les habitants de Sirius, comme ceux de Saturne d'ailleurs, ont un degré de connaissance infiniment supérieur à celui des hommes, et chacun d'eux pourtant trouve à se plaindre de l'infirmité de leur savoir, en quoi ils se distinguent deux fois de l'humain qui, lui, n'a non seulement que 5 sens, mais qui par ailleurs considère que ça lui suffit.
Oui, d'abord évidemment, il y a là une gifle à l'égard de l'orgueil humain, par la comparaison avec l'habitant de Sirius et celui de Saturne. Mais il y a aussi cette réflexion que toute connaissance, selon le principe lockien, ne nous parvient que par nos sens. Notre connaissance est fatalement limitée et nous interdit aussi d'aspirer à la connaissance parfaite de quoi que ce soit, et plus particulièrement, bien sûr, à l'intelligence de l'organisation du monde et de la nature de Dieu.
Vous avez parlé du principe lockien, et effectivement, parmi les humains que Micromégas et le Saturnien récupèrent dans leur petit navire, il y a, alors chacun dit des bêtises dès qu'il s'agit d'âme, on en a parlé hier avec vous, Raymond Trousson, il y a néanmoins, au milieu de tous ces individus, un petit partisan de Locke,
qui n'était pas le moins sensé de tous.
Justement, il n'était pas le moins sensé de tous, il était là tout auprès, et surtout, il ne parle pas avant qu'on lui adresse la parole. C'est également le plus modeste. Et voici ce qu'il dit. « Je ne sais pas, dit-il, comment je pense, mais je sais que je n'ai jamais pensé qu'à l'occasion de mes sens. Qu'il y ait des substances immatérielles et intelligentes, c'est de quoi je ne doute pas. Mais qu'il soit impossible à Dieu de communiquer la pensée à la matière, c'est de quoi je doute fort. » Je révère la puissance éternelle, il ne m'appartient pas de la borner, je n'affirme rien, je me contente de croire qu'il y a plus de choses possibles qu'on ne pense. Conclusion, l'animal de Sirius, c'est-à-dire Micromégas, sourit, il ne trouva pas celui-là le moins sage.
Oui, et il soulève en même temps d'ailleurs un problème auquel Voltaire s'était intéressé, disons même au plan de l'orthodoxie. Il avait interrogé un de ses anciens maîtres du collège Louis le Grand, Toulier d'Olivet, pour savoir s'il était acceptable, selon l'orthodoxie bien sûr, d'imaginer que Dieu avait pu douer la matière de la faculté de penser.
Quel vieux problème cartésien.
Le vieux problème cartésien, bien sûr, puisque...
Là, le déjà vieux problème cartésien.
Le déjà vieux, effectivement. Et Toulier lui avait d'ailleurs répondu que c'était, au plan de l'orthodoxie, parfaitement inacceptable. Enfin, c'est le problème qu'il soulève là dans Micromégas.
Mais alors, derrière le problème qu'il soulève, il y a également un hommage à Locke.
Mais vous avez d'ailleurs, je m'excuse de vous interrompre, c'est parce que nous en parlions hier ou avant-hier, je ne sais plus, de la différence entre Voltaire et Diderot. Chez Diderot, bien sûr, la pensée résulte d'une décantation particulière de la matière.
Oui, ce qui manque peut-être aux yeux de Voltaire d'humilité.
Oui, peut-être aussi, mais il lui est difficile d'admettre aussi que d'un amalgame de matière puisse naître quelque chose d'impalpable et d'insaisissable.
Mais puisque vous parlez de Diderot, d'ailleurs on va revenir à Voltaire et Diderot et à ce qui les distingue, à la faveur peut-être d'une comparaison entre Zadig et Candide, ces deux contes de Voltaire qui peut-être concentrent la problématique qui est celle de Diderot dans Jacques le Fataliste, dans lequel Diderot vante à la fois la liberté, tout en faisant valoir justement l'omnivalence de la matière, et omnivalence dont l'interprète paradoxalement est un défenseur penseur de la Providence, c'est-à-dire Jacques le fataliste lui-même. Mais avant cela, restons un instant à Locke, justement, aux relations de Voltaire et de Locke. Dans son dictionnaire philosophique, Voltaire fait de la philosophie de Locke l'exposé le plus clair qu'on puisse en trouver. Il dit ceci: il n'y a point de philosophe qui n'essuie beaucoup d'outrages et de calomnies. Pour un homme qui est capable d'y répondre par des raisons, il y en a 100 qui n'ont que des injures à dire et chacun paye dans sa monnaie. J'entends tous les jours rebattre à mes oreilles « Locke nie l'immortalité de l'âme, Locke détruit la morale, etc. » Et ce qu'il y a de surprenant, si quelque chose pouvait surprendre, c'est que de tous ceux qui font le procès à la morale de Locke, il y en a très peu qui l'aient lu, encore moins qui l'aient entendu, et nul à qui on ne doive souhaiter les vertus qu'avait cet homme, si digne du nom de sage et de juste. À la suite de cet article, d'ailleurs, il cite ensuite Malebranche et Descartes, qui sont l'un et l'autre représentés par quelques éminents atomes qui tiennent dans une phalange de Micromégas.
Oui, mais ça renvoie évidemment à la connaissance que Voltaire a prise assez tôt, d'ailleurs, de la philosophie de Locke, mais qu'il a eue grâce à l'intermédiaire d'un homme qu'il a connu vers 1720-1722, c'est-à-dire Bolingbroke, qui était un Anglais partisan des Stuarts, donc exilé, et qu'il avait connu en France. Et c'est Bolingbroke qui lui avait dit « Laissez là Descartes et Malebranche, ce sont des poètes plutôt que des philosophes, et si vous voulez vraiment apprendre à penser, lisez Locke ». Et effectivement, ce fut une découverte qui marque d'ailleurs tout le siècle. Tous ces philosophes, y compris Rousseau et Diderot, bien sûr, ont lu Locke, ce père de la philosophie sensualiste. Et c'est évidemment une des grandes influences que subit Voltaire. Cette idée qu'en effet, nous n'avons de connaissance que par l'intermédiaire de nos sens, ce qui limite bien entendu notre accès à des vérités qui dépasseraient cette perception.
En somme, toute connaissance est limitée, pour le dire en termes kantiens, par l'intuition sensible, ce qu'il appelle l'intuition sensible, ce qui fonde la possibilité de l'au-delà, ce qui également, contrairement à ce qu'on pense, et on retrouve ici la possibilité de combattre les religions sans être athée, ce qui fonde la possibilité d'un déisme.
Bien sûr.
Et d'un acte de foi. Alors, on va rester sur ces questions, Raymond Trousson, et évoquer avec vous, désormais, parmi les contes voltairiens, les deux plus fameux, que sont Zadig et Candide. François Connac, qui pense à tout, me rappelle évidemment de préciser à l'attention de nos auditeurs que c'est l'air de Cunégonde, évidemment, dans l'opéra de Bernstein, Candide, que nous entendons en ce moment. Pauvre Cunégonde, Raymond Trousson, il lui arrive le pire.
Oui, en effet, elle a souffrir quelques inconvénients de la lutte entre les Abares et les Bulgares, d'une série de péripéties.
Elle est violée, on lui coupe une fesse, elle devient laide. Enfin,
ah non, ça c'est la vieille à qui on coupe une fesse.
C'est la vieille à qui on coupe une fesse ? Bon, autant pour moi. Néanmoins, Cunégonde.
Le fait est là.
Le fait est là, oui. De quand date, Raymond Trousson, la rédaction des fameux contes de Voltaire, en particulier Zadig et Candide ?
Voltaire n'a pas écrit des contes de manière, disons, continue. Il a eu des périodes. Il a commencé assez tôt, environ de 1715, avec deux contes qu'il écrit alors pour le divertissement de la duchesse du Maine et de sa société au château de Sceaux. C'est le Crocheteur Borgne et Così Sancta, où se trouve d'ailleurs déjà le sarcasme et l'ironie voltairienne, surtout dans Così Sancta. Puis le temps passe, et Voltaire songe évidemment à s'illustrer dans des genres qui sont à l'époque infiniment plus prestigieux, comme l'épopée avec la Henriade, ou bien sûr la tragédie. Mais il a aussi une période de conte, par exemple, il le raconte lui-même, d'ailleurs dans l'hiver 63-64, comme il dit au coin de son feu, c'est alors qu'il écrit les contes de Guillaume Vadet, qu'il attribue à ce Guillaume Vadet, inexistant d'ailleurs, mais dont il prend le nom, sinon le prénom, à un auteur authentique qui est un inventeur du genre Poissard, qui est une espèce de salbigondi qui rassemble toute une série de textes assez plaisants. On retrouve même une satire d'ailleurs de Fréron emmené aux galères. Et puis, à certaines périodes, il a le souci d'écrire des contes, comme par exemple l'histoire de Scarmentado, à la suite de son aventure prussienne et de ses avanies de Francfort.
Épisode pessimiste, hein, vous l'avez dit.
Passablement pessimiste parce que Scarmentado, dont le nom en espagnol dit « instruit par l'expérience », c'est-à-dire au fond désabusé, traverse l'Europe et ne rencontre que des choses catastrophiques. Il y a là une période, disons, de pessimisme de Voltaire, dont il se relèvera bien sûr, c'est pas un dépressif. Et puis alors, dans certains autres cas, le conte lui paraît un moyen très commode, d'une part, de se divertir, d'autre part, de divertir ses lecteurs, sans pour autant que ses œuvres aient, au plan de l'engagement et de la philosophie, moins d'importance. Il n'existe pas d'œuvre innocente de Voltaire. Donc des écrits comme Candide ou Zadig ou les lettres d'Amabed ou tant d'autres, ou l'ingénu, bien sûr, ça ne manque pas, sont des œuvres qui véhiculent exactement les mêmes thèmes que Voltaire peut traiter, soit dans ses tragédies, soit dans le dictionnaire philosophique, soit dans les questions sur l'encyclopédie.
Mais pourtant, il y dit des choses différentes, et c'est là qu'on en vient à ce dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on en parle d'autant plus que ce sont des textes que la plupart de nos auditeurs ont en tête. Mmh. Zadig et Candide. Vraiment, il suffit d'être allé jusqu'en troisième pour avoir lu Zadig et Candide, pour en avoir entendu parler, et par là même d'ailleurs, pour se faire une idée fausse de ce que Leibniz pouvait dire du meilleur des mondes possible, puisque c'est contre lui que Voltaire a écrit Candide. Vous avez parlé d'un épisode pessimiste chez Voltaire. On a vu, quand on parlait de l'altercation avec Rousseau, de la correspondance notamment en 1756 du fameux poème sur le désastre de Lisbonne, que Voltaire pouvait s'indigner des douleurs humaines et parfois écrire des textes d'une noirceur extrême, magnifique d'ailleurs, qui témoignent d'un pessimisme qu'on retrouve justement dans Candide, notamment quand il parle du tremblement de terre de Lisbonne.
Oui, bien sûr.
Vous dites qu'il s'est remis de son épisode pessimiste. C'est pour ça que je dis, est-ce que Candide n'est pas malgré tout un grand ouvrage pessimiste ?
À certains égards, on dirait plutôt un ouvrage raisonnablement résigné. D'où la conclusion, il faut cultiver notre jardin sans chercher l'absolu ou ce à quoi nous ne pouvons pas atteindre. Mais il est exact qu'un récit comme Candide, qui nous apparaît aujourd'hui comme le chef-d'œuvre voltairien par excellence, bien sûr, est un récit qui a été, somme toute, assez mal apprécié par les contemporains et ceux qui ont suivi. Par exemple, Madame de Staël trouvait que Voltaire y déployait une gaieté infernale, un rire sardonique. Plus tard encore, un poète barbier disait que c'était un rire de singe assis sur la destruction. Hugo, à ce propos, parle aussi de Voltaire, ce singe envoyé sur terre par Satan. Pourquoi ? Mais parce qu'au fond, Candide est indiscutablement...
Parce que le rire est l'ennemi des religions.
Parce que le rire est l'ennemi des religions, parce que Voltaire en effet nous fait rire dans Candide, mille et une aventures. Mais aussi parce que c'est oublier qu'il y a chez Voltaire une façon de rire qui dissimule son émotion. Voltaire n'est pas un homme qui s'étale, qui geint ou qui gémit. Mais très souvent chez lui, le rire ou le sarcasme dissimule son émotion. C'est ce qui arrivera en bien des circonstances, et c'est particulièrement visible dans Candide, où au fond, il expose toute la misère humaine, tous les drames. On traverse la guerre, on traverse le tremblement de terre de Lisbonne, ces malheureux héros subissent mille et une mésaventures. Mais ce n'est pas une façon d'accabler l'espèce humaine par une sorte de mépris, comme on le croira souvent. C'est plutôt l'attitude de celui que Michelet appellera le rieur plein de larmes. Très belle expression d'ailleurs qui convient admirablement à Voltaire.
Après le tremblement de terre qui avait détruit les trois quarts de Lisbonne, les sages du pays n'avaient pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale que de donner au peuple un bel auto-da-fé. Il était décidé par l'université de Coimbre que le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu en grande cérémonie est un secret infaillible pour empêcher la terre de trembler. On avait en conséquence saisi un biscaïen convaincu d'avoir épousé sa commère et deux portugais qui, en mangeant un poulet, en avaient arraché le lard. On vint lier après le dîner le docteur Pangloss et son disciple Candide, l'un pour avoir parlé et l'autre pour avoir écouté avec un air d'approbation. Tous deux furent menés séparément dans des appartements d'une extrême fraîcheur, dans lesquels on n'était jamais incommodé du soleil. 8 jours après, ils furent tous deux revêtus d'un San Benito et on orna leur tête de mitres de papier. La mitre et le San Benito de Candide étaient peints de flammes renversées et de diables qui n'avaient ni queue ni griffes. Mais les diables de Pangloss portaient griffes et queues et les flammes étaient droites. Ils marchèrent en procession, ainsi vêtus, et entendirent un sermon très pathétique, suivi d'une belle musique en faux bourdon. Candide fut fessé en cadence pendant qu'on chantait. Le biscaïen et les deux hommes qui n'avaient point voulu manger de lard furent brûlés, et Pangloss fut pendu, quoique ce ne soit point la coutume. Le même jour, la terre trembla de nouveau avec un fracas épouvantable. Voilà pour le rire plein de larmes, effectivement. Il n'y a pas plus éloquent qu'un tel récit. Derrière ce rire plein de larmes, il y a, on entend, les échos d'un rire tragique. La possibilité de rire de tout, finalement, du rire comme seule façon de se rendre le monde digeste. Il ne s'agit pas seulement pour Voltaire de maudire les comportements humains, mais peut-être également de les rendre, d'être capable de les admettre, d'en admettre l'épouvante, d'en admettre l'horreur. Puisque finalement, que dit un tel texte, Raymond Trousson, sinon le fait que la nature est silencieuse et que quel que soit le sens qu'on veuille donner à un tremblement de terre, quoi qu'on veuille y voir la main de Dieu, en somme, tout cela ne signifie rien et le monde se fiche des offrandes, Dieu se fiche des offrandes qu'on peut lui adresser.
Sans compter que le tremblement de terre apparaît évidemment à Voltaire, comme à tout esprit éclairé, comme un phénomène strictement naturel et qui n'a guère à voir avec une volonté divine quelconque. Mais justement,
comme tout phénomène naturel,
Comme tout phénomène naturel.
Il faut que Dieu soit la nature pour parler ici de volonté entre guillemets divine.
Évidemment. Et l'épisode que vous venez de lire est évidemment tout à fait représentatif de ce que pouvait lui reprocher Madame de Staël, par exemple. Voilà. Une cérémonie est d'un épouvantable tragique, c'est un auto-da-fé, on va brûler vif ces malheureux. Et tout est raconté comme une immense plaisanterie, avec un Candide qui est fessé en cadence et des gens qu'on va brûler pour le bien de leur âme. Il est manifeste que c'est un texte qui ne peut pas être lu au premier degré, ça va sans dire. Voltaire décrit une atrocité avec une ironie qui en montre aussi, si l'on peut dire, la futilité.
C'est en cela que c'est peut-être encore plus riche que la simple ironie voltairienne. Ce qu'il y a de futile derrière tout cela, c'est que ça ne sert à rien. C'est de quoi témoigne l'auto-da-fé ? Il témoigne de la certitude dans laquelle les hommes se trouvent que la terre n'a pas tremblé parce que certains hommes, choisis au hasard, ont commis les crimes qu'on leur reproche.
Évidemment. Et du reste, il faut aussi remarquer
c'est de la politique, en somme, tout ça. Hein. Il s'agit de donner des boucs émissaires.
Oui, bien sûr. Et puis, c'est aussi, naturellement, une question de foi, d'orthodoxie, de conviction qu'il faut sauver les âmes, etc. Mais on constatera aussi que si Voltaire, ici, par exemple, utilise le sarcasme et l'ironie, il saura aussi parler de manière extrêmement grave de circonstances, disons, tout aussi tragiques, lorsqu'il raconte, par exemple, le supplice de Calas ou celui du chevalier de la Barre, où là, il ne sourit pas, il n'y a pas de plaisanterie. Nous ne sommes pas dans le genre du conte. Nous sommes dans le genre du témoignage judiciaire et de l'horreur d'un pareil traitement. Donc, il ne rit pas toujours.
Mais alors, justement, à quel moment cesse-t-il de rire ?
Peut-être que dans Candide, où nous sommes dans le genre du conte, il prend évidemment une certaine distance avec les événements, et le ton général du récit étant celui d'une légèreté, d'une impertinence constante, cette description de l'auto-da-fé colle avec l'ensemble. D'ailleurs, tandis que s'il avait utilisé le même procédé pour décrire le supplice du chevalier de la Barre, ça aurait été tout simplement d'abord une singulière faute de goût et particulièrement horrible.
Oui, mais prenez par exemple, Raymond Trousson, l'épisode du Titanic. J'y pense parce que dans un livre tout à fait admirable, d'ailleurs, qui s'appelle « La logique du pire », Clément Rosset termine sur l'idée que, sur ce qu'il appelle le rire exterminateur. Et il prend l'exemple du Titanic, en disant que le Titanic est une chose épouvantable, une catastrophe tragique, que ce sont deux milliers de morts, ou presque, qui ont péri dans des conditions lamentables, etc., etc. Mais en même temps, si l'on met bout à bout le fait que les vigiles aient oublié leurs jumelles, qu'ils aient signalé la présence de l'iceberg une fois que le bateau avait été déchiré par l'iceberg, le fait que le bateau ne pouvant pas couler, chacun continuait à boire un verre de brandy avec un gilet de sauvetage, le fait que tout est drôle finalement, le fait que l'orchestre a continué à jouer valse, galop et polka avant, une fois qu'ils avaient l'eau au genou, de se mettre à jouer plus près de toi mon Dieu, plus près de toi mon Dieu. En somme, si l'on met bout à bout la liste des circonstances du naufrage du Titanic, c'est malheureusement, et l'expression est malheureuse et à bien des égards, à mourir de rire.
Oui, d'une certaine façon, mais surtout parce que ses comportements en face d'une mort certaine que les acteurs veulent en somme ignorer, ces comportements apparaissent comme singulièrement dérisoires. Donc ici, quand on nous dit que Candide fut fessé en cadence, on a devant soi une image tout à fait comique, tout à fait burlesque, de quelque chose qui n'est nullement, bien entendu.
Et le burlesque continue, c'est tout le génie de Voltaire, d'ailleurs, dans les imprécations, enfin même pas les imprécations, les lamentations de Candide, qui viennent juste après l'épisode qu'on a lu. Hein. Candide épouvanté, interdit et perdu, tout sanglant, tout palpitant, se disait à lui-même, si c'est ici le meilleur des mondes possibles, que sont donc les autres ? Passe encore, si je n'étais que fessé, je l'ai été chez les Bulgares. Mais oh, mon cher Pangloss, le plus grand des philosophes, faut-il vous avoir vu pendre sans que je chasse, sans que je sache pourquoi ? Oh, mon cher Anabaptiste, le meilleur des hommes, faut-il que vous ayez été noyé dans le port ? L'Anabaptiste avait été noyé et Pangloss lui avait démontré que la rade de Lisbonne avait été construite pour que l'Anabaptiste s'y noie. Oh, mademoiselle Cunégonde, la perle des filles, hein, l'amour de sa vie, faut-il qu'on vous ait fendu le ventre ? Même là, on rit.
Même là, on rit, mais on rit aussi dans l'épisode de la guerre des Avars et des Bulgares.
Ça, c'est le début. Hein.
Le massacre de part et d'autre. Où il dit, par exemple, une nouvelle salve de canon, autant encore de la terre, 5 ou 6 000 coquins qui en infectaient la surface. L'ironie amère est évidemment là, avec l'attitude du pauvre Candide. Candide qui assiste à tout ça, qui, dit Voltaire, tremblait comme un philosophe.
Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons formaient une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer. Les canons renversèrent d'abord à peu près 6 000 hommes de chaque côté, ensuite la mousqueterie ôta du meilleur des mondes environ 9 à 10 000 coquins qui en infectaient la surface. La baïonnette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d'hommes. Le tout pouvait bien se monter à une 30 000 âmes. Candide, qui tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu'il peut pendant cette boucherie héroïque.
Ben, voilà une description très amusante d'ailleurs de la guerre, mais où l'ironie et le sourire cachent évidemment l'horreur réelle de la situation.
Tout le propos de Candide, rappelons-le pour mémoire, c'est d'opposer à la parole de Pangloss, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible, les péripéties qui ne cessent de témoigner du contraire. Pangloss ne cessant de dire que ce qui nous semble un mal ne l'est que provisoirement, c'est l'effet de notre myopie, ce qui nous semble une catastrophe en vérité, vu de façon plus haute, hein, quand on adopte un point de vue plus vaste, un point de vue synoptique, le point de vue de Dieu, tout cela n'est que nécessaire à rehausser le principe d'harmonie et à faire aboutir le monde au meilleur. Et qu'en somme, ce monde est le meilleur des mondes possibles, la meilleure preuve, c'est qu'il existe. C'est donc la théorie de Leibniz, caricaturée par Voltaire, telle que Voltaire s'y oppose, opposant la présence et le présent d'un mal ici et maintenant à la perspective du meilleur que promet, soi-disant, ce mal. Est-ce qu'il n'y a pas...
C'est ce qu'il dit de l'optimisme. La définition d'optimisme qu'il donne est évidemment juste et amusante de son point de vue. Il dit l'optimisme, c'est la rage de soutenir que tout va bien quand tout va mal.
Mais alors, on en vient justement à cette question. Comment expliquer dans ces conditions, Raymond Trousson, que vous puissiez parler de Voltaire comme provisoirement pessimiste ? Comment l'auteur de Candide peut-il n'être que provisoirement pessimiste ?
Mais parce que Voltaire aura jusqu'à la fin de sa vie, d'ailleurs, l'espoir que des choses sont déjà, d'ailleurs, en train de changer. Que ça va mieux, que certes ce n'est pas parfait, que la loi doit être réformée, que les souverains doivent régner de manière plus juste, que les hommes vont s'améliorer. Il voudra y croire. Il est fondamentalement optimiste, il croit à ce progrès, mais avec ces intervalles de chute et de décadence qui sont inévitables dans l'histoire. Ce n'est pas une histoire du progrès continu qui partirait de 0 jusqu'à 100. Peut-être arrivera-t-on à 100, mais après s'être repassé par 40 ou par 38.
Let us review lesson 11.
Paragraph 2, axiom 7.
Once one dismisses the rest of all possible worlds, one finds that this is the best of all possible worlds.
Once one dismisses the rest of all possible worlds, one finds that this is the best of all possible worlds.
Pray classify pigeons and camels.
Pigeons can fly.
Camels are mammals.
Well, there is a reason for everything under the sun.
There is a season for everything under the sun.
Objection! What about snakes?
Snakes.
'twas snake that tempted Mother Eve. Because of snake, we now believe that though depraved, we can be saved from hellfire and...
Candide, de Bernstein, toujours. Et c'est un choix, évidemment, de François Connac.
And primed us for salvation. Jehovah could not pardon all the sins that we call cardinal, involving bed and bottle. No one to Aristotle.
Et Raymond Trousson, qui est notre invité toute cette semaine. Nous parlons de Voltaire toute cette semaine dans Les Nouveaux Chemins de la Connaissance. Aujourd'hui, de ses contes, ses fadaises philosophiques, si importantes pourtant, et si belles, et tellement pédagogiques, si réussies de Voltaire. C'est de Candide que nous parlons. On va également parler de Zadig. Avant d'en venir à Zadig, en votre compagnie, Raymond Trousson, juste une question sur Candide. Est-ce qu'il n'y a pas, de tous les textes, on a parlé des relations entre Voltaire et Diderot, de ce qui les distinguait, de ce qu'ils avaient en commun, est-ce qu'ils n'ont pas, pour le coup, en commun d'avoir construit l'un avec Candide, l'autre avec Jacques le Fataliste, deux contes philosophiques. Alors certes, Candide est peut-être plus structuré, délibérément d'ailleurs, que Jacques le Fataliste, qui revendique un joyeux chaos. Néanmoins, est-ce que les deux n'ont pas en commun d'opposer en permanence à la théorie? Alors dans un cas, c'est la théorie du meilleur des mondes possible, à laquelle Voltaire oppose le spectacle permanent du pire. Dans l'autre, dans Jacques le Fataliste, c'est la théorie selon laquelle tout est écrit à l'avance dans le grand rouleau à laquelle Diderot oppose la contingence des mésaventures qui arrivent à Jacques et son maître. Est-ce qu'en somme, les deux ne témoignent pas d'un choc frontal entre ceux qui essaient de penser le monde et ceux qui tout simplement tentent d'y vivre?
Si, mais si vous prenez le cas de Jacques le Fataliste, c'est surtout aussi l'illustration du principe d'indétermination qui est au fond sensible dès la première phrase. Quand on présente les deux voyageurs, Jacques et son maître, d'où venaient-ils? Est-ce qu'on sait d'où l'on vient? Où allaient-ils? Qui veut le savoir? Et pourquoi? On ne sait pas pourquoi. Les personnages n'ont plus...
Diderot pose une série de questions fondamentales qu'il balaie d'un revers de main.
Qui sont évidemment des questions métaphysiques, présentées sous une allure courante. Il y a donc dans les deux cas l'utilisation de théories philosophiques mises en compte et mises en image, et qui visent justement à ruiner, à détruire les théories pures et simples, abstraites, des philosophes qui ne conduisent finalement nulle part parce qu'elles ne reposent pas sur l'expérience. Voltaire est évidemment passé maître pour exposer ce genre de situation. Et tout Candide, c'est ça. Lorsque Voltaire réfléchit, par exemple, c'est une question qu'il pose, quelle est la meilleure forme de gouvernement possible? C'est une question abstraite. Question parfaitement à la portée de Jean-Jacques Rousseau. Pas du tout de Voltaire. Pas du tout de Voltaire parce que
Rousseau, qui disait « Commençons donc par écarter tous les faits car ils ne touchent point à la question ».
Oui, mais il voulait dire par là l'effet biblique, c'est-à-dire sortir de l'orthodoxie. Mais c'est significatif, Voltaire est un esprit pratique et pragmatique. Et la réponse qu'il fait à cette question, quel est le meilleur gouvernement possible, c'est le gouvernement où l'on n'obéit qu'aux lois. Et l'interlocuteur, dans le dialogue, dit « Oui, mais où diable est ce pays ?» Et il s'entend répondre « Il faut le chercher. » C'est-à-dire, il faut le réaliser. Il y a là un esprit pragmatique qui s'extrait de l'utopie. Or, dans Candide, vous avez justement la présence successive de trois utopies. Il y a l'utopie des oreillons, c'est-à-dire chez les sauvages, qui est évidemment une critique de l'homme naturel chez Jean-Jacques Rousseau. L'homme naturel n'est qu'une espèce de bête fauve sans mœurs ni morale. Il y a l'utopie de l'Eldorado, où les chemins sont pavés de pierres précieuses, où les hommes sont tolérants, où il n'y a pas de discorde, etc., etc., et qui n'a, hélas, qu'un seul défaut, celui de ne pas exister. Et enfin, l'utopie qui serait plutôt...
J'allais dire par définition, oui.
Oui, qui serait plutôt une contre-utopie. C'est-à-dire la finale, il faut cultiver notre jardin. Il faut sortir de ce que nous ne pouvons pas atteindre. Il ne faut pas rêver, il faut prendre notre destin en main, notre destin terrestre, dans la limite qui nous est imposée et à laquelle nous ne pouvons pas échapper.
Vingt belles filles de la garde reçurent Candide et Cacambo à la descente du carrosse, les conduisirent au bain, les vêtirent de robes d'un tissu de duvet de colibri. Après quoi, les grands officiers et les grandes officières de la couronne les menèrent à l'appartement de sa majesté au milieu de deux files chacune de 1000 musiciens selon l'usage ordinaire. Quand ils approchèrent de la salle du trône, Cacambo demanda à un grand officier comment il fallait s'y prendre pour saluer sa majesté, si on se jetait à genoux ou ventre à terre, si on mettait les mains sur la tête ou sur le derrière, si on léchait la poussière de la salle, en un mot, quelle était la cérémonie. L'usage, dit le grand officier, est d'embrasser le roi et de le baiser des deux côtés. Candide et Cacambo sautèrent au cou de Sa Majesté, qui les reçut avec toute la grâce imaginable et qui les pria poliment à souper. Vous avez parlé, Raymond Trousson, de l'inconvénient d'Eldorado, hein, qu'on croise dans Candide, cette utopie, la seule utopie, enfin, utopie utopique, si j'ose dire, de Voltaire, qui a l'inconvénient de ne pas exister. Bon, alors, dans le conte, ça existe, c'est une convention, évidemment, du conteur.
Mais on s'y ennuie.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire, c'est le deuxième inconvénient, c'est qu'on s'y ennuie ferme, tant et si bien d'ailleurs que cet endroit où les enfants jouent avec des rubis comme si c'était de la caillasse, finalement, ils finissent par s'en aller.
Mais c'est parce que, aux yeux de Voltaire, le sort ou le destin de l'homme, c'est d'agir, c'est de construire, c'est de prendre son destin en main.
Oui, mais je veux dire, parce qu'en général, l'utopie, l'homme n'en est pas capable, ici, l'homme n'en veut pas.
Oui, c'est en effet quelque chose d'assez particulier, puisque l'utopie est en principe un endroit idéal auquel on souhaiterait accéder. Voltaire nous montre au contraire que cet univers où tout est parfait, où tout va bien, est finalement un monde, eh bien oui, un monde où l'on s'ennuie. Parce que l'effort humain, l'initiative humaine, n'y a plus aucune place. C'est un monde fixiste, définitif, suspendu au bord d'une éternité heureuse, au-delà de laquelle il n'y a rien et sur laquelle l'homme lui-même ne peut pas agir. C'est bien pourquoi Candide et Cacambo, qui s'ennuient, préfèrent reprendre le cours de leur errance et de leurs aventures plutôt que de s'enterrer là.
C'est-à-dire en revenir à l'histoire.
C'est-à-dire en revenir à l'histoire.
Le début même de Candide est une entrée symbolique dans l'histoire, une chute du Jardin d'Éden.
Ben oui, lorsque Candide est chassé du château de Thundertrunk pour avoir flirté un peu avec la gentille Cunégonde, et il y a là une parodie évidemment désopilante de Adam et Ève chassés du paradis terrestre à l'est d'Éden. Candide est chassé à grands coups de pied au cul.
Oui, un grand coup de pied au cul. Mais alors, surtout, il est chassé d'un château dont le baron est l'un des plus grands seigneurs de la Westphalie, car, dit Voltaire, son château avait une porte et des fenêtres.
Évidemment, dérision de l'aristocratie, et en particulier de l'aristocratie allemande, puisque Voltaire avait traversé l'Allemagne, il avait pu s'apercevoir que certaines régions étaient assez pauvre, assez misérable, mais que ça n'empêchait pas la morgue nobiliaire des aristocrates de l'endroit.
De sorte que Candide s'en prend deux fois, finalement, au monde de la théorie. D'une part, en décrivant, avec le début, le moment où Candide est chassé du château paradisiaque, où il a eu le malheur ou la mauvaise idée d'embrasser Cunégonde, et également avec l'épisode de l'Eldorado, Voltaire raconte à deux reprises que l'homme n'est pas fait pour être hors de l'histoire. De la même façon qu'il oppose l'expérience à la théorie, il oppose le monde de l'histoire à celui de l'éternité.
Mais oui, et c'est d'ailleurs ce qui explique finalement que, pour reprendre, disons, les deux titres des œuvres poétiques de Milton, il n'y a pas de paradis perdu et il n'y a pas non plus de paradis retrouvé. La métairie de la Propontide à laquelle accèdent finalement Candide et ses compagnons, c'est pas un paradis. Il faut y travailler. Il faut produire ce que l'on mange. C'est la condition humaine, réelle, la vérité, et le seul lieu où l'homme puisse prendre son destin en main.
Une fille fort riche avait fait une promesse de mariage à deux mages. Et après avoir reçu quelques mois des instructions de l'un et de l'autre, elle se trouva grosse. Ils voulaient tous deux l'épouser. « Je prendrai pour mon mari, dit-elle, celui des deux qui m'a mise en état de donner un citoyen à l'Empire. C'est moi qui ai fait cette bonne œuvre, dit l'un. C'est moi qui ai eu cet avantage, dit l'autre. « Eh bien, répondit-elle, je reconnais pour père de l'enfant celui des deux qui lui pourra donner la meilleure éducation. » Elle accoucha d'un fils. Chacun des mages veut l'élever. La cause est portée devant Zadig. Il fait venir les deux mages. « Qu'enseigneras-tu à ton pupille ? » dit-il au premier. « Je lui apprendrai, dit le docteur, les huit parties d'oraison, la dialectique, l'astrologie, la démonomanie, et ce que c'est que la substance et l'accident, l'abstrait et le concret, les monades et l'harmonie préétablie. « Moi, dit le second, je tâcherai de le rendre juste et digne d'avoir des amis. » Zadig prononça, « Que tu sois son père ou non, tu épouseras sa mère. » » Changement de décor donc ici, hein. On passe de Candide à Zadig, encore qu'il est toujours question évidemment d'harmonie préétablie comme dans Candide et c'est du meilleur des mondes possibles. C'est toujours Leibniz. Alors, il y a quand même une nuance importante à apporter. D'abord, le sous-titre de Zadig, c'est Zadig ou la destinée. Il y a dans Zadig, malgré tout, dites-moi ce que vous en pensez Raymond Trousson, l'idée que, eh bien, puisque certaines choses échappent à notre connaissance, l'idée que certains actes peuvent nous sembler absurdes, mauvais, malfaisants, et pourtant trouver ultimement dans la perspective d'un savoir absolu une justification. C'est la fameuse figure de l'ermite dans Zadig. Alors là, le passage que je viens de lire est un passage où Zadig est en position un peu de Salomon. C'est un sage, mais finalement c'est un sage dont le savoir n'est qu'humain, et qui d'ailleurs vante l'humanité de l'un aux dépens de l'omniscience de l'autre. Donc, tout va bien, si j'ose dire. Mais Zadig, ensuite, confronté à toute une série de malheurs, et en particulier aux méfaits de l'ermite qu'il croise, et qui ne cesse de nuire à ceux qui le reçoivent avec gentillesse et hospitalité, au motif que le mal qu'il leur fait maintenant leur sera un bien plus tard, eh bien, l'ermite explique à Zadig qu'il ne connaît pas les conséquences de ses actes, et qu'en vérité, ce qu'il fait, il le fait pour le mieux, pour le meilleur des mondes possibles. Est-ce que Zadig ne décrit pas la victoire de Leibniz ?
Disons qu'il pourrait sembler, en effet, la décrire, puisque cet ermite, qui est en réalité l'ange Lestrade, lui a la prescience. Et si, par exemple, il jette à la rivière le jeune garçon qui s'est montré si aimable, c'est en expliquant à Zadig, évidemment indigné, qu'en réalité, si ce garçon avait vécu, il serait devenu un assassin. Donc, ce qui apparaissait un mal est en réalité un bien. Mais pour cela, il faut avoir la perspective d'une intelligence toute-puissante et omnisciente. Seulement, ça ne signifie pas non plus que Voltaire accepte sans discussion cette position, puisque la solution que lui dit l'ange Gesrade, ce qu'il faut, c'est se soumettre et adorer. On pourrait en rester là, et dans ce cas-là, bien entendu, Leibniz aurait raison. Seulement, il y a le dernier mot de Zadig. Au moment où l'ange lui dit ça et prend son envol vers les sphères supérieures, Zadig essaie de le rappeler en lui disant « Oui, mais !» Et ce « mais » est suivi de trois points de suspension. Zadig a évidemment des objections à faire.
D'accord, mais comme il disait « mais » dit Voltaire, l'ange prenait déjà son vol vers la dixième sphère, Zadig à genoux, adora la Providence et se soumit. Là-dessus, l'ange lui cria du haut des airs « Prends ton chemin vers Babylone, où effectivement le meilleur attend Zadig, c'est-à-dire la royauté. »
Oui, effectivement, et une existence finalement couronnée de succès.
Oui, mais j'ajoute qu'au terme, évidemment, de Zadig, il est écrit « Zadig bénissait le ciel ».
Oui.
Que c'est étrange, ça, quand même.
Oui.
C'est si peu voltairien.
C'est en effet apparemment assez peu voltairien, mais c'est surtout aussi, un roman de formation, Zadig. Au fil de ses aventures, qui sont nombreuses, Zadig apprend bien des choses. Et il apprend, entre autres choses, à pratiquer et à prêcher la tolérance. C'est là que se trouve un célèbre passage qui est celui du souper de Zadig, où se trouvent des adeptes de diverses religions. Il y a un Celte, il y a un Égyptien, etc. Tous gens qui ne tardent pas au souper à se disputer comme des chiffonniers sur leur croyance et sur la vérité de leur croyance. Et Zadig les met d'accord en leur posant une question très simple. Est-ce que tous vous admettez qu'il existe un Dieu créateur et ordonnateur ? Et tous marquent en effet leur accord. Et Zadig leur dit, ça c'est une sagesse bien voltairienne, eh bien ça suffit, vous êtes donc tous d'accord. Tout le reste est secondaire, tout le reste est invention humaine, tout le reste est institution inutile.
Mais c'est dire que le savoir de Zadig est un savoir humain et tourné vers l'homme. Ce que Zadig permet, d'ailleurs en permanence, dans ce livre, c'est constamment ce à quoi il en appelle, c'est constamment la possibilité d'un dialogue entre les hommes. Il est l'artisan du dialogue entre les hommes, il est celui qui remplace le jugement par la compréhension, dont la sagacité consiste justement à remplacer le jugement par la compréhension.
Oui, en effet, c'est-à-dire par un exercice sain de la raison et de la modération, qui ne peut, selon lui, conduire qu'à la tolérance. Notre jugement est tellement faible, le vôtre ou le mien, alors qui a raison finalement devant des choses qui sont indécidables. Il faut en venir à tolérer, c'est-à-dire à accepter votre position aussi bien que la mienne, pour peu que nous ayons un terrain d'entente sur l'essentiel qui est cette existence de Dieu.
S'entendre, par exemple, sur la possibilité de ne pas être d'accord. En l'occurrence, il parle de l'existence de Dieu, on pourrait remplacer l'existence de Dieu par utilisation de la raison.
Oui, bien sûr, c'est-à-dire que la connaissance de Dieu que nous pouvons acquérir se situe dans les limites que notre raison peut atteindre. Il ne faut pas essayer de comprendre au-delà. Ça appartient peut-être à une intelligence céleste, mais de toute façon, ça nous dépasse. Nous ne pouvons donc que nous soumettre et adorer.
Alors, il y a un passage merveilleux dans Zadig. Il y en a plein, hein, des passages merveilleux. Merveilleux à tous égards. Mmh. C'est le chapitre 4, chapitre sur l'envieux.
Ah, oui.
L'envieux, évidemment, veut faire la peau à Zadig en permanence, puisque évidemment, tout réussit à Zadig, en tout cas au début. Avant que la destinée ne lui joue des tours, qui finalement d'ailleurs finissent par être favorables, ce qui fait là pour le coup de Zadig un texte optimiste, me semble-t-il, contrairement à Candide. Et alors il y a notamment un moment où l'envieux met la main sur des petits vers de Zadig qu'il avait écrit et qu'il avait sur une ardoise, je crois qu'il a jeté négligemment. Et la tablette se brise et l'envieux met la main sur les vers et les vers disent ceci: par les plus grands forfaits sur le trône affermi, dans la publique paix, c'est le seul ennemi. Commentaire de Voltaire, l'envieux fut heureux pour la première fois de sa vie. Il va montrer ça au roi qui, immédiatement, fait emprisonner Zadig. Là-dessus, Zadig, pour sa défense, retrouve la deuxième moitié de la tablette et ça donne ceci. Par les plus grands forfaits, j'ai vu troubler la terre. Sur le trône affermi, le roi s'est tout dompté. Dans la publique paix, l'amour seul fait la guerre. C'est le seul ennemi qui soit à redouter. C'est merveilleux.
Oui, c'est en effet une très jolie trouvaille, en tout cas. D'abord, que celle de ces vers scindés qui, de part et d'autre, continuer de dire quelque chose, et d'autre part, cette astuce à laquelle le lecteur ne s'attend absolument pas.
Mais c'est aussi la marque d'un livre de Sancho, c'est aussi la marque d'un ouvrage qui ne périt pas du fait même qu'on puisse l'entamer. En somme, c'est comme un organisme dont on enlèverait un membre et qui pourtant continuerait de vivre. Ces vers qu'on peut scinder.
Bien sûr. Bien sûr. Et puis aussi, c'est une critique, en effet, de l'envie des milieux courtisans que Voltaire avait fort bien connu. Vers 1745, il est fait, en effet, poussé un peu par Madame du Châtelet. Une véritable carrière de courtisan. Il écrira d'ailleurs dans une de ses lettres: ceux qui vous ont dit que en 44 ou 45, j'avais été courtisan ont parfaitement raison, mais je m'en suis dégagé en 46 et revendu en 47.
Oui, l'autre élément d'ailleurs de courtisanerie se trouve dans tous les conseils politiques que prodigue Zadig, à tous ceux d'ailleurs dont il est au service desquels la destinée le met au gré de ses aventures. Et il y a notamment l'épisode où le roi a perdu, je crois, c'est son ministre des Finances, et qu'il faut le remplacer. Et Zadig suggère à ce moment-là de faire passer tous les candidats, tous les impétrants, par un petit vestibule. Puisque le couloir est un couloir qu'en traversant, évidemment, qui offre 1000 pierreries et dont chacun des courtisans se remplit les poches et donc, arrivant devant le roi, ne parvient pas à danser, alors que celui qui a le jarret ferme et le pied tendu est également le plus honnête d'entre eux, non pas parce qu'il danse mieux, mais tout simplement parce que le fait même qu'il danse bien
témoigne de son honnêteté.
Témoigne de son honnêteté.
C'est une trouvaille, de même d'ailleurs que ce passage où Zadig apparaît comme une sorte de Sherlock Holmes avant la lettre, où à force de raisonnement, il retrouve l'animal perdu par le roi.
Le petit chien.
Le petit chien, l'histoire du petit chien, retrouver le chien du roi. Et uniquement par le raisonnement, il finit par le retrouver, exactement comme ça se passe avec un Sherlock Holmes ou dans certains récits d'Edgar Poe.
Ce qui est étonnant quand même dans Zadig, c'est l'espèce de joie dans laquelle baigne la totalité de cette histoire, quand bien même il y a des malheurs. Alors, dans Candide, on a vu que c'est une ironie permanente qui vient accuser finalement les méfaits des hommes, les drames du monde, l'incompréhension des hommes qui répondent aux drames du monde par des supplices nouveaux, alors que dans Zadig, on a l'impression que l'ensemble de l'histoire baigne dans une sorte d'euphorie permanente. Est-ce que ça tient à la jeunesse de l'auteur ?
Ouf, la jeunesse de l'auteur, mon Dieu, non, parce que les deux contes sont grosso modo contemporains. Hein. Zadig apparut en 1752 et daté probablement de 48. Et Candide, lui, est de 59. Seulement, Candide bénéficie, enfin si l'on peut dire aussi, d'expériences qui ne sont pas présentes dans Zadig. 59, nous sommes au cœur de la guerre de 7 ans. Il y a toute une série de circonstances tragiques. Il a vécu l'expérience de la Prusse et de Francfort. Tout ça n'est pas dans Zadig, qui est évidemment antérieur à tout ça.
« Quel dommage. Un grand merci d'abord, évidemment, Raymond Trousson. Quel dommage, on n'a pas pu parler de l'ingénu. Et pourtant, c'est merveilleux, l'ingénu.
Ça en vaudrait la peine aussi.
Oui, c'est une histoire formidable. Ça en vaudrait la peine. On le refera, d'ailleurs. Hein. On en parlera en votre compagnie, Raymond Trousson. Toute cette semaine, nous la passons avec vous, c'est-à-dire avec Voltaire. Voltaire, dont vous êtes le biographe, hein, je rappelle votre livre. C'est paru en 2008 aux éditions Talendier. Et c'est une somme sur Voltaire, indispensable, désormais, à sa lecture ou à sa compréhension. Micromégas, Zadig, Candide, l'ingénu, Così Sancta, autant de petites merveilles, de petites perles aisément lisibles qui n'exigent de votre part, chers auditeurs, aucune technicité philosophique et qui pourtant donnent à penser à chaque page. Suite et fin, demain, de cette semaine, en votre compagnie, Raymond Trousson, c'est de tolérance que nous parlerons, de Mahomet, de l'affaire Calas, de la prière à Dieu, la fameuse prière à Dieu, et également, évidemment, du traité de la tolérance de Voltaire. À la technique aujourd'hui, c'est Jean-Richard Dufour, à la réalisation François Connac. Un grand merci également à Geneviève Méric, Adèle Van Rett, Jennifer Murzo et Florence Malfatto, France Culture. Il est 17h50 et sur une musique idoine, on retrouve tout de suite Albert Jacquard.